Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around Black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like wary of the police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Bonjour, bienvenue sur CNews. L'actualité en direct depuis la manifestation parisienne contre la réforme des retraites, ce sera dans quelques instants et je vous présenterai mes invités pour commenter ce cortège. Mais avant cela, le rappel des principaux titres avec Michael Dos Santos.
La commission mixte paritaire valide l'article 7, celui du report à 64 ans de l'âge de départ à la retraite. Jusqu'à maintenant, il était fixé à 62 ans. Les 7 sénateurs et les 7 députés continuent de débattre pour trouver un compromis sur l'ensemble de la réforme des retraites. En cas d'accord, un texte pourrait être voté jeudi au Parlement. Près d'un quart de grévistes chez EDF, selon la direction, 22,45% des salariés ont cessé tout travail pour cette 8e journée de mobilisation. Un chiffre en très forte baisse le 7 mars dernier. Ils étaient presque deux fois plus nombreux. Enfin, le fort de Brégançon sans électricité, selon le président de la CFE-CGC Énergie Côte d'Azur, la résidence officielle de la présidence de la République, lieu de vacances du couple Macron dans le Var, a été touchée par plusieurs coupures de courant. Un geste symbolique en pleine contestation contre la réforme des retraites.
Et pour m'accompagner aujourd'hui, j'accueille Judith Vintrop. Bonjour Judith.
Bonjour,
je rappelle que vous êtes grand reporter au Figaro Magazine. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour Benjamin Bonjour. Morel, maître de conférence en droit constitutionnel à Paris. Et à vos côtés, Pascal Bito-Panelli. Vous allez nous parler maintien de l'ordre dans le cortège en espérant que tout se passe bien aujourd'hui. Nous le verrons. Pour l'instant, ça a l'air plutôt calme, vous l'aurez compris. On va parler de la contestation de la réforme des retraites. C'est un tournant, sans doute, aujourd'hui, parce que vous le savez, à l'Assemblée a lieu en ce moment la commission mixte paritaire. Elle est réunie, d'ailleurs, il y a quelques minutes, un peu moins d'une heure maintenant. L'article 7, le fameux article 7 sur le départ à 64 ans a été validé. Et puis cette séquence, elle sera donc peut-être suivie d'un vote solennel demain, à moins que le 49-3 ne soit enclenché. Nous le verrons. Et puis la rue, bien sûr, vous le voyez déjà sur cette image, avec des syndicats qui veulent afficher une détermination plus forte que jamais, alors que des actions de blocage, vous le savez, se poursuivent dans le pays. On va parler de tout cela. Et on va rejoindre sans plus tarder dans le cortège parisien qui s'était lancé des Invalides pour rejoindre la place d'Italie. Jeanne Cancard. Jeanne, racontez-nous un petit peu la teneur de la mobilisation, l'ambiance qui y règne, sachant qu'il y a au fond une double actualité, une actualité législative qui est en train de s'accélérer, et puis donc cette contestation de la rue qui ne veut pas plier.
Oui, Nelly, exactement. Et justement, les manifestants qui sont présents ici aujourd'hui, eh bien, ils le savent. C'est un petit peu la dernière ligne droite pour eux, même si ce qui frappe aussi quand on les interroge, c'est qu'ils nous disent, même si, eh bien, cette loi, cette réforme des retraites, elle est adoptée, elle est votée, même si c'est par le 49-3 ou bien par une majorité, eh bien, on continuera à être mobilisés, on continuera la contestation, même si ça doit passer par une grève générale. Alors, pour l'instant, eh bien, la mobilisation, elle se passe plutôt dans le calme. Le cortège était lancé il y a un peu moins d'une heure de l'esplanade des Invalides, direction la place d'Italie. On était d'ailleurs tout à l'heure pas très loin finalement de l'Assemblée nationale, du Palais Bourbon, là où en ce moment se tient donc cette fameuse commission mixte paritaire. Ce qu'ils nous disent aussi les manifestants, eh bien, c'est qu'ils comptent sur une mobilisation très forte, une mobilisation au moins aussi importante, ils espèrent, que celle de mardi dernier, celle du 7 mars où, eh bien, 700 000 manifestants s'étaient réunis à Paris selon les syndicats, 80 000 selon le ministère de l'Intérieur. Alors là, c'est toujours un petit peu difficile de vous dire précisément si c'est plus, si c'est moins, puisqu'il faut savoir que sur ce parcours, eh bien, les boulevards sont assez larges, donc la population, les manifestants sont assez clairsemés, mais ils nous le disent, eh bien, ils comptent bien et ils espèrent bien que cette mobilisation soit forte. Et puis c'est aussi une journée de contestation qui est sous tension. La préfecture de police a prévenu, il se pourrait qu'il y ait plusieurs centaines d'éléments radicaux, de casseurs qui se mêlent ici dans les allées du cortège. C'est pour cette raison, eh bien, qu'un dispositif policier très important est déployé aujourd'hui pour cette 8e journée de manifestation contre la réforme des retraites.
Merci beaucoup, Jeanne. Et évidemment, on vous retrouvera un petit peu plus tard dans le cortège à mesure qu'il progresse. Alors, on va voir, avant de vous faire réagir, de quel bois se chauffent les leaders syndicaux. Aujourd'hui, à commencer par Philippe Martinez, et puis toujours la perspective du 49-3 quand même, hein, qui plane à l'horizon en cas d'inobtention, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, si on ne pouvait pas réunir une majorité pour procéder à un vote solennel. Écoutons ce que disait Philippe Martinez tout à l'heure au début du cortège.
D'ailleurs, c'est le pire du pire. On a le gouvernement qui a choisi un processus qui n'est pas habituel pour une loi aussi importante, puisque ça, c'est dans le cadre du projet de loi rectificative de la sécurité sociale, une procédure donc accélérée, qui n'a pas pu aller à son terme dans les débats. Au Sénat, rebolote, processus accéléré. Si on passe pour le 49-3, par le 49-3, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça va poser un problème, un grand problème de respect de ce qui se passe dans la rue et de ce que pense le pouvoir.
Et puis, à contrario, un Laurent Berger qui lui aussi évoque ce qui va se passer demain dans les deux hémicycles, dans les deux assemblées. Écoutez.
Si il y avait un passage positif au vote de cette loi, ça n'enlèvera rien à l'appréciation négative qu'on y porte, d'abord. Il y aura, je crois, profond malaise dans le monde du travail et on continuera d'y exprimer notre volonté de faire avancer les droits des travailleurs d'une manière ou d'une autre.
Ouais. Judith Weintraub, si le vote passe, en gros, c'est la fin de l'union syndicale.
Oui, je pense, parce que dans d'autres déclarations récentes, Laurent Berger a dit que la CFDT serait toujours du côté de la légalité. Dimanche, il disait même, pas clairement, mais disons de façon un peu moins obscure, qu'il y avait deux hypothèses, où la loi était adoptée selon une procédure normale et auquel cas il y aurait des divergences syndicales, puisque la CFDT considérerait que la démocratie parlementaire s'est exprimée, ou alors le gouvernement recourait au 49-3, et dans ce cas-là, il se réservait la possibilité de continuer à manifester. Mais franchement, il n'avait pas l'air très très chaud pour continuer à investir les rues.
Il le dit sans embâge aujourd'hui.
Oui.
Et en plein cortège. Benjamin Morel, en gros, on a là un front syndical qui veut y aller coûte que coûte et qui se fiche peut-être, en tout cas qui veut outrepasser ce qui peut se passer du côté législatif, et puis un autre qui reconnaît la légitimité du vote.
Oui, qui reconnaît la légitimité du vote, mais peut-être faut-il voir un petit peu sur le long terme, parce qu'il y a deux éléments à prendre en compte. Le premier élément, c'est qu'on a vu que Laurent Berger, sur cette réforme, comme sur d'ailleurs la précédente, était assez facilement dépassé par sa base. Et donc si jamais un mouvement doit continuer, est-ce que vraiment les CFDTistes resteront en retrait de ce mouvement? C'est pas si évident que ça. Peut-être que lui prendra ses distances, mais il n'est même pas certain qu'il ait la marge de manœuvre pour le faire. Le deuxième élément, c'est qu'il y a une autre bataille qui est en train d'être lancée, qui a notamment été lancée hier par Valérie Rabault, qui est la bataille d'un référendum d'initiative partagée. Et donc, on va probablement avoir des parlementaires. A priori, si on prend la jurisprudence sur ADP, le référendum ne devrait pas poser de problème. Mmh. Et donc, pendant 9 mois, il va y avoir une collecte de signatures. Cette collecte de signatures, elle va passer par les réseaux de l'AFI, par la réseau des Verts, du PS, mais également par les réseaux syndicaux, de la CGT et probablement de la CFDT, ce qui va faire que la question des retraites risque de rester à ce moment-là dans les tuyaux médiatiques, dans les tuyaux syndicaux, et que la CFDT ne pourra pas jouer en la matière les mises en retrait.
Et puis il y en a qui y croient mordicus et qui veulent aller encore plus loin, mener le combat. Vous connaissez tous Olivier Matteux maintenant, de la CGT 13, qui lui dit « on ne pliera pas, quelles que soient les circonstances ».
On va continuer. Quoi qu'il se passe à la commission mixte et demain à l'Assemblée, on continuera. Cette loi ne verra pas le jour. Au fil du temps, au fil des entourloupes du gouvernement et du patronat, l'opposition à la réforme le se renforce. Il n'y a aucune raison. Et quelle que soit la façon dont soit ils se sont achetés une majorité, soit ils passeront en force, ça ne fera pas de la réforme un progrès social. Donc on va la combattre jusqu'à ce qu'elle soit rangée aux oubliettes.
On va retourner dans le cortège qui progresse, en tout cas qui n'est pas entravé par des éléments perturbateurs à l'heure qu'il est. Bonjour Vincent Farandège, vous êtes sur une autre portion du parcours parisien. Aujourd'hui, racontez-nous un petit peu les slogans que vous avez entendus, le degré de détermination, est-ce qu'il est intact? Parce qu'on voit quand même que dans la mobilisation, il y a une petite déperdition. On le voit aussi au niveau des déclarations, par exemple du côté de la fonction publique, la mobilisation est moindre aujourd'hui.
Oui, absolument. Avec Olivier Gangloff, on suit aujourd'hui la tête de cortège qui vient tout juste d'arriver à notre niveau, là où les leaders syndicaux défilent. Et c'est vrai que pour le moment, ce cortège est assez assez dense, on peut le dire, hein, depuis l'Esplanade des Invalides jusqu'à où on se trouve actuellement. On n'a pas énormément avancé parce que justement le cortège est plutôt dense. Pas d'échauffouré non plus, ça c'est une chose importante à souligner. Autre chose à souligner également, c'est vrai qu'on voit que très peu les forces de l'ordre, assez retirées dans les rues adjacentes, comparées aux autres manifestations, où ils étaient un petit peu plus présent. Peut-être que ça explique justement que ça calme un petit peu, j'allais dire, les velléités des éléments perturbateurs. En ce qui concerne les revendications, c'est vrai que les personnes que nous avons pu rencontrer sont toujours aussi, j'allais dire, combatives. Il y a deux scénarios. Le premier, c'est la loi qui est la réforme, pardonnez-moi, qui est votée à l'Assemblée et au Parlement. Il y aura d'autres actions, mais sous d'autres formes, nous disent les responsables syndicaux et les manifestants. L'autre scénario, c'est le 49-3. Et là, ça pose plus problème aux manifestants qui jugent que c'est un déni de démocratie. Et donc, ils continueront de descendre de la rue pour manifester contre cette réforme des retraites.
On verra si la mobilisation peut tenir la distance, parce qu'on sait aussi que ça coûte. Hein, on a coutume de dire que ça coûte de faire grève. Et voilà, il faut tenir la distance. On verra si sur la durée, ça peut s'inscrire. Puisqu'on parle de la mobilisation, et Pascal Bitopani, j'aimerais vous donner la parole également. On évoquait aujourd'hui une fourchette de 300 à 500 éléments perturbateurs potentiels pour se greffer au cortège et tenter de l'entraver. Quelques centaines de gilets jaunes également. Alors, il y a déjà eu des contrôles. Je crois que 2800 contrôles ont été effectués depuis ce matin. D'ores et déjà, des interpellations, peut-être parce que voilà, il y avait des armes, des projectiles qui posaient problème aux mains de ces manifestants qui tentaient de rejoindre le cortège. Mais on a aussi coutume de dire que plus ça se tend avec l'exécutif, plus les actions se radicalisent. Est-ce que c'est à craindre, ça ?
Oui, c'est forcément à craindre, surtout qu'on est sur les épisodes renouvelés, la tension monte. Donc aujourd'hui, une journée importante pour la politique et sensible pour le maintien de l'ordre et l'ordre public. On sait, d'après les services de renseignement, et ça serait d'ailleurs assez illogique qu'ils ne soient pas là, qu'on peut craindre plusieurs centaines d'ultra, quels qu'ils soient, puisqu'on peut avoir affaire à beaucoup de monde. Des anarcho-libertaires, des mouvances libertaires et anarchiques, de l'ultra-gauche, des ultra-jaunes, des jeunes très révoltés. Cette pénétration, tout particulièrement dans la tête de cortège et les montées en tension, peuvent absolument être tout à fait plausibles. C'est pour ça que, d'une part, le préfet de police de Paris met un dispositif très conséquent et bien calibré, et par ailleurs, dans ce nouveau maintien de l'ordre, pour éviter les provocations, vous l'avez vu, le met plus en profondeur. C'est-à-dire qu'on sort les forces mobiles de sécurité du décor, pour le moment.
Ce qui s'est passé, juste un petit addendum, ce qui s'est passé lors de la dernière mobilisation, le fait qu'il y ait eu ces heurts qui étaient les plus conséquents depuis le début de la mobilisation, avec, on s'en souvient, cette voiture de médecin qui était en intervention, qui a été prise à partie, qui a été cassée. Et puis, à la suite, une comparution immédiate et un jugement assez rapide hein, pour l'auteur des faits. Est-ce que ça peut quand même, d'une certaine manière, les revigorer, c'est-à-dire agiter ces éléments qui aussi ont à cœur de faire parler d'eux ? Ils sont dans une espèce de veine porteuse, si je puis dire.
Absolument, oui. Je pense que l'étincelle est toujours là et on a toujours des gens qui souhaitent mettre fin à cette propagande par le fait, pour lesquels, d'ailleurs, ils disent souvent, d'ailleurs, même sur leur réseau, que ce type de manifestation ne sert à rien, qu'il faut de la propagande par l'action, qu'il faut aller au combat pour que ce soit payant, que c'est la seule façon de faire céder le gouvernement.
Judith Vintraub. Commentaire peut-être.
Oui, ce que nous disent nos envoyés spéciaux sur place, hein, les journalistes du Figaro, c'est qu'il y a beaucoup de gens très très jeunes et beaucoup de retraités. C'est d'ailleurs ce qu'on voit à l'image. Il y a beaucoup de gens qui ont apparemment l'âge de la retraite et de gens extrêmement jeunes qui ne sont pas encore...
Mais très peu de salariés au milieu.
Sur le marché du travail. Et en fait, la présence de ces jeunes, dont certains sont radicalisés, pose un problème spécifique aux forces de l'ordre, mais aussi aux services d'ordre des syndicats. Ils sont d'abord ultra politisés, travaillés par les réseaux d'extrême gauche, des coloniaux, etc., etc. Et on entend des slogans du genre « un flic, une balle, justice sociale ». Ça a été beaucoup entendu dans les précédentes manifs. Ils ont une stratégie qui consiste à se coller dans le cortège au service d'ordre des syndicats pour que quand la police charge, ce soit les services d'ordre qui s'en prennent plein la figure. Les services d'ordre, évidemment, ne se laissent pas faire. Donc, du coup, ils se font insulter par ces jeunes qui leur crient CGT collabo et autres gracieusetés. Et pour les forces de l'ordre, un public très jeune, c'est forcément d'un maniement délicat. Serait sur le gâteau, s'ils sont attrapés, ils risquent beaucoup moins que quelqu'un qui est plus aguerri, un black bloc aguerri.
Alors, puisqu'on est sur l'image, là, vous voyez, le cortège parisien, ça se passe à gauche. À droite, des images qui nous viennent de Toulouse, où traditionnellement, on se mobilise beaucoup hein, depuis le début de cette contestation. On parlait de heurts. Il y en a eu un certain nombre ce matin à signaler à Nantes. C'est pour ça que je vous disais, voilà, il y a quand même un risque qui pèse aussi sur Paris, parce qu'il y a souvent quand même des actions coordonnées, même s'ils ne sont pas en lien direct, il y a quand même voilà, une sorte d'émulation qui se crée. Mais j'aimerais qu'on aille voir ce qui se passe du côté de Lyon, où à Lyon aussi, on avait eu un certain nombre d'affrontements, d'échauffourées. Bonjour Olivier Madinier, vous êtes sur place, le cortège qui sans doute arrive à la fin. Et on nous a signalé quelques jets de projectiles. Est-ce que vous pouvez nous le confirmer ?
Oui, absolument. Le cortège qui vient de traverser le Rhône pour arriver place Bellecour. Et comme ici, traditionnellement, il y a des affrontements avec les forces de l'ordre. Pour l'instant, c'est relativement calme, mais on a vu quelques jets de projectiles. Un canon à eau des forces de l'ordre est positionné à l'entrée de la place Bellecour. Et le cortège, en avant du cortège, il y a une centaine de Black Blocs qui, comme à chaque manifestation, veulent en découdre avec les forces de l'ordre. Il y a eu déjà quelques incidents dans le quartier de la Guillotière tout à l'heure, quelques tirs de gaz lacrymogènes. Et à ce stade-là, le cortège, la manifestation est arrêtée avant de pouvoir rentrer sur la place Bellecour.
Merci beaucoup pour cette première interprétation du cortège lyonnais qui touche donc à sa fin. On viendra vous revoir un petit peu avant la fin de l'émission, bien entendu. J'aimerais qu'on prenne le pouls aussi de ce qui se passe du côté politique, du côté législatif, avec cette question. Les voix LR seront-elles vraiment au rendez-vous pour établir une majorité? On sait d'ores et déjà qu'un certain nombre de gages ont été donnés ce matin, d'ailleurs, a priori sur les carrières longues. Bonjour Élodie Huchard. Il faut 10 voix d'avance. Est-ce que la perspective aujourd'hui du 49-3 est en train de s'éloigner ?
Alors, il faut évidemment être très mesuré. Ce qu'on voit, et vous le disiez à l'instant, c'est que le gouvernement a beaucoup cédé à la droite. Vous avez parlé des carrières longues, mais il y a aussi tout ce qui avait été voté plus tôt dans la matinée, l'index senior pour les entreprises de plus de 300 salariés et non pas 50, comme le voulait le groupe majoritaire à l'Assemblée. La création d'un CDI senior, il avait été rajouté au Sénat. À la base, le gouvernement n'en voulait pas. La surcote pour les femmes aussi, qui sans grande surprise devrait être adoptée. Et puis, effectivement, cette question des carrières longues, elle est centrale parce que Aurélien Pradier, le fameux frondeur finalement au sein de la droite, on avait fait une question totalement personnelle. Il voulait que le gouvernement reprenne son amendement. Alors si on est très honnête dans la logique, effectivement le gouvernement reprend son amendement, 43 annuités maximum pour ceux qui ont commencé à travailler tôt. Mais Aurélien Pradier avait fait un amendement avec beaucoup de virgules, de sous-conditions, etc. qui ne sont pas forcément reprises par le gouvernement. En revanche, du côté des Républicains, il faut le reconnaître, plus ça va, plus cette réforme quand même ressemble à celle qu'ils avaient pu défendre dans le cadre de l'élection présidentielle et ressemble, comme on le disait, à l'amendement qui avait été voté au Sénat. Donc c'est plutôt bon signe quand même pour le gouvernement d'aller vers ce texte. Et puis en ce qui concerne l'ambiance en ce moment en commission mixte paritaire, c'est un peu plus calme parce qu'on vient de passer l'article 7 sur le recul de l'âge légal. On a passé l'article 8 sur les carrières longues. On va arriver à des articles un petit peu plus tranquilles. Donc le rythme devrait s'accélérer normalement.
Oui, donc, mais c'est quand même Aurélien Pradier et ses alliés ou ses amis qui ont la clé aujourd'hui. Est-ce qu'il cédera aux sirènes personnel, enfin de la notoriété, ou est-ce qu'il rentrera dans le rang? Évidemment, c'est toute la question. Merci beaucoup, Élodie. On se retrouve un petit peu plus tard. Vous nous ferez part des avancées en commission mixte paritaire. La NUPES, en sortie de commission tout à l'heure, a dit ils se sont fait enfumer, les LR. Mais finalement, l'exécutif, il avait une sorte de botte secrète de dernière minute. Oui. C'est sa dernière carte à abattre, en fait.
Il va falloir faire attention quand même, parce que le 49 alinéa 3, ça implique quoi? Ça implique que, grosso modo, si la motion de censure passe, votre texte tombe et vous également. Mais si jamais la motion de censure ne passe pas, eh bien, à ce moment-là, le texte passe. En revanche, obtenir une majorité sur le texte, c'est plus compliqué parce qu'il ne faut pas 289 députés sur le papier, la moitié de 577, il vous faut une majorité en séance. Ça signifie que eh bien, le député Renaissance ou le député Modem, qui ce jour-là devra, comme de par hasard, inaugurer un musée sur le commerce dans la Tiertaine au XIXe siècle, s'il n'est pas là, eh bien, il ne compte pas pour le gouvernement. Donc, pour le gouvernement, il y a trois incertitudes. Il y a une incertitude sur ses propres troupes. Et on sait qu'on a des députés Renaissance et Modem notamment, qui ont déjà dit qu'ils ne voteraient pas la réforme. Il y a une incertitude sur la présence, parce que les députés NUP et RN, eux, ils seront là. Quel va être le taux de présence dans la majorité ? On se joue à quelques voix près. Et là, il y a une incertitude. La troisième incertitude, vous l'avez dit, c'est sur les députés LR. Et là, l'amendement qui a été retenu sur les carrières longues, il ressemble beaucoup plus à l'amendement Marleix qu'à l'amendement Pradier. Donc, il n'est pas sûr que ça convainque Pradier. De l'autre côté, ben certes, le CDI senior est repris. Mais le CDI senior, il y a de grandes choses qui sont inconstitutionnelles dans le cadre d'un PLFSS. Donc, vous pouvez dire open bar, vous pouvez faire des cadeaux, mais si, in fine, le Conseil constitutionnel, Laurent Fabius, sabre la chose, eh ben, c'est un cadeau pour rien. Donc ça, il n'est pas certain que ça emporte une grande partie du groupe LR. Donc, aujourd'hui comme hier, eh ben, ce 49 alinéa 3, il est tout aussi incertain.
D'autant que Mathilde Panot s'est empressée de dire, lorsqu'il y a une suspension de commission, que finalement, seulement un tiers, que c'était un faux gage sur les carrières longues notamment, parce qu'un tiers des personnes seraient réellement concernées par cette avancée, entre guillemets. Sur l'absentéisme, est-ce qu'on peut raisonnablement penser qu'un jour aussi crucial, les gens vont avoir une excuse de « pardon, j'ai piscine » pour ne pas aller voter ce texte.
Si piscine, ce sera une décision politique.
Voilà, c'est un message politique fort à envoyer.
Oui, alors, ce qu'il faut comparer, c'est toutes les incertitudes dont a parlé Benjamin. Il y a quand même peu d'incertitudes sur le fait qu'en cas d'usage du 49-3, la motion de censure qui sera déposée par l'opposition ne sera pas adoptée. Donc, ce n'est pas un danger de mort pour le gouvernement. Il faut comparer ça au risque social que représente l'usage du 49-3. Je le disais tout à l'heure, Laurent Berger a distingué deux cas de figure, où c'est adopté normalement, entre guillemets, où le gouvernement utilise le 49-3. Et dans ce cas-là, il a bien l'intention de continuer la mobilisation. Ça va laisser des traces dans la société, le 49-3. Rappelez-vous, les précédentes fois, notamment au moment de la loi Travail, ça a été... un des arguments qui ont soudé la mobilisation et qui l'ont fait durer.
Le 49-3, on n'en a jamais passé autant que sous des présidences socialistes. En
fait. Oui, mais l'important, c'est comment est-ce que vous le politisez. Le 49-3 est devenu quasiment une méthode de gouvernement depuis le début de la législature sur les textes financiers. Mais là, celui-là est tout de même très symbolique. Il arrive en fin de texte, sur un texte très compliqué, après un vote bloqué, un 47-1. Bref, on a fait toute la panoplie de la Constitution. C'est bien pour les constitutionnalistes, mais évidemment, ça crée un effet de gradation. Le deuxième élément, c'est qu'en effet, le 49 alinéa 3, je rejoins tout à fait ce qui a été dit, pour un gouvernement, il est délétère. Mais un vote négatif sur son texte, ce serait bien plus délétère. Et donc demain, quand Elisabeth Borne arrivera en séance, elle comptera ses troupes, elle verra un petit peu comment les motions préalables sont votées ou pas par les différentes tendances de LR, et si jamais il faut le dégainer, dans le pire des cas, elle le fera.
Vous pensez que vraiment que ça va se décider demain et non pas dès ce soir parce que ça se prépare
quand même. Non, surtout pas.
Il y a intérêt à coller le plus possible aux conditions réelles du vote.
Avec toujours cette incertitude que certains mentent sur leurs intentions.
Bien sûr. Mais pour déclencher votre 49 alinéa 3, il a simplement pour nécessité d'être délibéré préalablement au Conseil des ministres. Alors là, il y a tout un teasing, il y aura peut-être un Conseil des ministres demain, mais il a pu être délibéré il y a deux semaines et il peut être déclenché demain. C'est-à-dire que là, c'est probablement déjà dans l'arsenal du gouvernement. Si demain, on voit qu'il y a en effet de l'absentéisme dans les troupes de la majorité, il va y avoir des motions de procédure avant si on voit que les amis de Aurélien Pradier votent ces motions. À ce moment-là, pour le gouvernement, il va y avoir le sentiment qu'en effet, rien n'est acquis et qu'il y a un risque. Et là, dégainer le 49 alinéa 3 peut être intelligent parce qu'une fois que le texte est voté et rejeté, c'est trop tard.
De mémoire de journaliste qui suit la politique, Judith, est-ce qu'on a déjà été aussi... autant dans un mouchoir de poche sur un vote aussi crucial, est-ce que ça a déjà été aussi serré dans l'histoire de la cinquième à propos d'une loi quand même sociétale, structurante comme celle-ci?
Je ne crois pas. En tout cas, il y en a sur une loi sociétale comme ça, il n'y en a pas qui me reviennent en tête.
Donc on est quand même dans un cas de figure assez particulier, avec une issue très incertaine, y compris pour les dirigeants.
Oui, parce qu'en fait, vous disiez tout à l'heure, à juste titre, que c'est sous la gauche que le 49-3 a été le plus souvent utilisé, sous Michel Rocard, qui était en majorité relative. Mais c'est devenu une méthode de gouvernement pour lui. Ça ne correspondait pas à suspense, il savait qu'il n'avait pas la majorité, donc il y allait... tranquillement, avec des règles d'engagement du 49-3 différentes d'ailleurs.
Et peut-être pour ceux qui nous regardent, rappeler pourquoi, quand on fait le compte, hier on disait, parce que voilà, tout le monde sort les tablettes en ce moment, on disait, il y a 3-4 voix d'avance, mais ça ne suffira pas. Pourquoi on dit, il en faut 10? Justement pour pallier cette possibilité que certains se défaussent intention.
Admettons, j'évoquais tout à l'heure ce qui va se passer avant. Vous avez Elisabeth Borne, mettez-vous à sa place, elle arrive en séance. Elle voit qu'il lui manque quelques troupes. Déjà, il faut les compenser. Elle voit que vous avez un groupe LR qui se divise sur les votes préalables, les motions de procédure, mais qui vous dit que la personne qui ne vote pas la motion de procédure va ensuite voter quand même définitivement le texte. Tout ça, c'est très, très incertain. Donc, si vous êtes à quelques voix près et qu'il faut voir que tout le monde n'est pas en séance au même moment lors des votes, je peux avoir envie d'aller au petit coin au moment du vote. Et ça, c'est une incertitude qu'il faut bien pallier. Or, il y a des jeux parlementaires, évidemment. Ce moment-là, je n'avais pas vraiment envie d'aller au petit coin. Mais politiquement, tout d'un coup, je m'absente. Et donc, tout ce jeu parlementaire, c'est un jeu parlementaire qu'il faut prévoir auparavant. Si vous ne le prévoyez pas, vous êtes battu. Et si vous êtes battu, ça peut avoir des conséquences importantes, d'où le fait qu'il faut vous assurer une marge d'avance pour éviter un désastre politique.
Donc, même 5 voix de rab, enfin d'avance, c'est quand même un risque. Hein,
si vous les avez sur le papier et qu'elles se traduisent dans la réalité, c'est suffisant. Si vous ne les avez que sur le papier, ben en effet, c'est très très dangereux.
Regardez cette image. C'est la première vitrine endommagée sur le cortège parisien. Ça vient de se passer là sous nos yeux. Je ne sais pas trop ce qu'est cette vitrine. C'est une agence d'intérim, visiblement. Ouais. On sait que d'ordinaire, ce sont les banques, les agences immobilières. Ça a été le cas la dernière fois avec une agence Guillotel.
Là, c'est
une
agence
d'intérim. Je ne sais pas si l'une de nos équipes peut nous... Alors, elle ne nous entend pas, mais regardez, le saccage est quand même déjà assez impressionnant. Toute la vitrine a explosé et le mobilier à l'intérieur semble avoir été quelque peu endommagé. Les panneaux d'affichage pour les petites annonces sur la vitrine initiale également, ce qui suscite évidemment l'intérêt de tous les badauds et des journalistes. Je ne sais pas si notre équipe peut réagir à ces images et nous les commenter par rapport à ce qui vient de se passer. Jeanne, est-ce que vous avez vu qui s'en est pris à cette agence d'intérim, mais qui sont ces personnes-là qui s'avancent dans les locaux?
Très bien. Écoutez, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a eu plusieurs centaines de personnes entièrement vêtues de noir qui viennent de se changer il y a quelques minutes maintenant et qui donc commencent à s'en prendre, eh bien, à cette vitrine. Vous voyez, donc, c'est exactement ça. C'est une agence d'intérim. Donc, ils ont pu pénétrer à l'intérieur à l'instant, justement, en cassant, en brisant cette vitre. Donc, vous avez des éléments radicaux qui ont pu pénétrer à l'intérieur. Tout à l'heure, il y a eu des premiers feux de poubelle, des premières destructions d'abribus. C'est malheureusement des images qu'on a l'habitude de voir ici dans ces manifestations. Même s'il faut dire, il y en a certaines qui étaient beaucoup plus calmes. Là, ça fait à peu près une heure et demie que le cortège s'était lancé. Et donc, on peut dire qu'on assiste maintenant aux premières tensions ici dans ce cortège. On est plutôt à l'avant du cortège et on a vu tout à l'heure donc plusieurs centaines de personnes qui étaient entièrement vêtues de noir et qui commençaient à préparer des projectiles.
Merci, vous restez pas trop loin de nous. Hein. On vous rejoindra dans un instant parce qu'on va continuer de commenter ces premières images de dégradation. C'est toujours assez déplorable. Il faut le dire, Pascal Vitopalli, vous le présentiez quand même. Il y a 5 minutes, vous nous disiez, je suis à peu près sûre qu'ils vont y aller, qu'ils vont procéder de la sorte. Et c'est intéressant ce qu'elle nous dit, ils se sont changés à la dernière minute. C'est évidemment leur modus operandi. Hein.
Absolument, toujours dans la même technique de ces mouvements ultra-radicaux au Black Bloc. Bon, de la casse, là, on n'est pas vraiment sur quelque chose qui symbolise ou le capitalisme ou l'État, mais on casse, on fait de l'image, on fait du buzz. Là, on voit même des pénétrations à l'intérieur du local pour essayer ou de dégrader un peu plus, de mettre le feu, voire de voler ce qui peut l'être. Donc on est sur les mêmes images. Je pense que ces gens en plus qui n'ont pas, c'est les premiers que j'ai vus, qui n'étaient pas cagoulés, seront interpellés et que de suite les unités d'interpellation vont venir en renfort et essayer de fixer ces gens et de protéger la zone.
Est-ce qu'on peut s'étonner quand même qu'il n'y ait pas, parce que là ça fait déjà 2-3 minutes qu'on est sur l'image, qu'il n'y ait pas de force de l'ordre qui viennent sécuriser le périmètre ou sauver ce qui peut encore l'être? Ça veut dire forcément qu'ils sont occupés ailleurs?
Alors, ils sont là, ils sont en renfort, ils sont plus, moins dans le décor, mais ils sont quand même là, avec des temps, des unités lourdes qui sont là pour faire du maintien de l'ordre, et des unités d'interpellation, des modules d'interpellation qui viennent dans la fulgurance et dans la mobilité interpeller. Sachez que, logiquement, avant une manifestation, la préfecture de police prépare, si j'ose dire, l'itinéraire. On voit, on
va. Ça y est, des charges sous nos yeux. Je vous laisse les commenter, bien sûr.
À des premières interpellations, voilà, des forces mobiles. Donc les modules d'interpellation, c'est les BRAV, les brigades de répression de l'action violente. Ce sont les compagnies d'intervention. Ce sont une unité particulière des CRS et les pelotons d'intervention de la gendarmerie mobile. Donc, la difficulté, Judith en parlait tout à l'heure, discriminer les publics, c'est-à-dire rentrer dans une foule hostile et bien interpeller et extraire juste les éléments qui répandent la tension. Maintenant, sachez que non seulement avant une manifestation, l'itinéraire est dégagé de tout ce qui pourrait être cassé ou servir d'objet, et la préfecture de police donne ce qu'on appelle un avis commerçant, c'est-à-dire demande de la prudence aux commerçants qu'ils peuvent, par exemple aux restaurateurs, de fermer, de retirer les chaises et les tables, et de tirer le rideau de sûreté pour les boutiques qui pourraient en avoir un. Qu'il n'y ait aucune casse sur de telles manifestations n'est pas possible.
D'accord.
De toute façon.
Il y aura toujours une cible.
Absolument. Si on a, dans une manifestation, quel que soit le service d'ordre, des éléments radicaux qui veulent casser, ils arriveront à le faire.
Alors, là, l'image fige un petit peu, donc on la voit par intermittence, malheureusement. Mais moi, ce qui me frappe d'ores et déjà, c'est qu'ils sont quand même très nombreux. J'avais l'impression qu'ils étaient un petit peu moins nombreux, en tout cas moins regroupés. Hein, ouais. Ces forces de l'ordre, c'est brave. Et qu'ils agissent un peu, enfin, ils font un peu bloc, comme des centurions romains, un peu, à l'époque. Hein.
Oui, absolument. Bah, le maintien de l'ordre, c'est un peu cette tactique-là. L'image est bonne. Quand on voit des gens avec le petit bouclier carré, c'est pelotons d'intervention de la gendarmerie mobile. Donc des unités, des modules qui, en surplus des forces lourdes qui font du maintien de l'ordre, sont, avec l'avis du terrain et la DOPC, la salle de commandement de la DOPC, qui vont à l'interpellation.
D'accord.
Là, ils sont prêts à le faire.
Jeanne Coquart, vous êtes, ça se passe sous vos yeux. Nous, on a vraiment le point de vue...
Ça monte en tension, on a des tirs de mortier, on va avoir des points de cristallisation et d'affrontement.
Et quelqu'un qui, semble-t-il, a été blessé au sein de cette agence d'assurance, sur la gauche de l'écran. Jeanne, je ne sais pas si vous pouvez nous répondre, parce que, évidemment, l'important aussi, c'est que vous mettiez à l'abri si ça venait à chauffer un peu trop. Mais si vous le voulez, je vous laisse la parole. Libre à vous de commenter ces images. On a le point de vue, l'angle, nous montre les policiers, mais pas vraiment ce qui se passe en face. Qui sont-ils, ces éléments en face d'eux?
Oui, je vous entends bien, Nelly. Là, ce que vous voyez en ce moment sur les images de Fabrice Esner, ce sont donc les forces de l'ordre qui sont positionnées ici avec en face d'eux, eh bien, les éléments les plus radicaux qui sont présents ici dans cette manifestation. Des individus qui sont tous vêtus de noir. Donc, il faut rappeler évidemment que ce ne sont pas les manifestants qui participent en ce moment à ces affrontements, à ces heurts, mais bien des personnes qui se sont infiltrées ici dans le cortège. La préfecture de police, eh bien, elle avait prévenu que ça allait être une journée sous tension, puisqu'elle s'attendait, elle redoutait bien la présence d'environ un millier d'éléments radicaux ici présents dans le cortège. Ça fait maintenant un peu plus d'une heure et demie que le cortège s'était lancé. Maintenant, on peut dire qu'il est en quelque sorte scindé en deux, justement en raison de ces tensions qui sont en train d'éclater ici, boulevard du Montparnasse. Les forces de l'ordre qui, jusqu'à présent, eh bien, étaient assez discrètes. On ne les avait pas vues pour l'instant sur le parcours de la manifestation. Mais là, eh bien, étant donné le niveau de tension qui est en train de monter au fur et à mesure, eh bien, les forces de l'ordre ont procédé à une charge, puisque des projectiles sont en ce moment envoyés dans leur direction. Des pétards ainsi que des tirs de mortier ont été fabriqués et envoyés contre les forces de l'ordre. Donc pour le moment, on peut dire que malheureusement, la manifestation a perdu de son calme.
Je ne sais pas si vous pouvez encore nous répondre, parce que évidemment, ne courez aucun risque. Et s'il le faut, évidemment, éloignez-vous quelque peu. Mais combien sont-ils face à eux? Parce qu'on voit beaucoup les policiers. Il y a quoi, 10, 20, 30 personnes, une centaine comme la dernière fois?
Non, aujourd'hui, on peut dire que là, en ce moment, à l'instant T, ils étaient une centaine, même si c'est toujours, vous savez, un petit peu compliqué pour nous de filmer les éléments radicaux qui, rapidement, eh bien, nous taguent la caméra, soit la décale, de façon à ce qu'on ne puisse pas filmer. Là, puis pour tout vous dire, il y a du gaz lacrymogène qui vient d'être envoyé par les forces de l'ordre. Donc ça va être un petit peu plus compliqué pour finir ce duplex.
Bien sûr, on va vous laisser vous mettre à l'abri et reprendre un petit peu vos esprits. On va continuer à commenter l'image avec avec nos invités. Judith, bon voilà, ça fait partie des risques du métier. Malheureusement, ce sont les images et c'est déplorable hein, aussi que l'on retient. On a coutume de le dire, et pas forcément de la mobilisation, mais de ceux qui veulent finalement revendiquer tout et n'importe quoi.
Non, ce qui est le plus déplorable, c'est pas que ça gâche la mobilisation, c'est que des commerçants qui ont déjà subi le confinement, les réformes, les manifs contre la réforme de la SNCF, etc., etc., aujourd'hui doivent encore affronter ce genre de risque, soit encore obligés de fermer. C'est ça qui est déplorable. Mm-hmm. Et je trouve qu'on pense bien peu à tous ces gens-là. C'est quoi, la huitième...
C'est la huitième mobilisation.
Huitième mobilisation manif à Paris. C'est la huitième fois qu'il y a des tas de commerçants qui sont attaqués ou qui sont obligés de fermer boutique. Ça, c'est une perte considérable dans un contexte d'inflation et d'explosion des coûts de l'énergie. En plus, c'est vraiment lamentable.
Oui, il y a un manque à gagner conséquent. Benjamin Morel, que vous inspirent ces images? Est-ce que vous êtes inquiet pour la suite du cortège?
Pour la suite du cortège, on va probablement avoir des heurts. La question, c'est est-ce qu'on est réellement inquiet pour la suite du mouvement? Et là, il peut y avoir en effet un effet de radicalisation. Il va falloir voir ce que donnent les choses. Mais si on a des syndicats qui peu à peu se retirent, on montait tout à l'heure la déclaration de Laurent Berger. Si donc on a des services d'ordre qui sont moins présents, même si la CGT sera probablement encore à la manœuvre. Mais très clairement, pour rentrer dans le bras de fer, il y a peut-être la perspective référendum, il y a peut-être la perspective blocage, etc. Mais la perspective manif ne sera pas la première privilégiée par les syndicats parce que hors le texte, elle est en réalité relativement peu efficace. Donc on risque d'avoir des manifs qui, d'un coup, ont lieu, mais sans réelle structure. Et là, on rentre plutôt dans une perspective de gilet jaunisation.
Le climat presque insurrectionnel, comme le disent certains.
Même si ce sont des manifs avec très peu de personnes, en réalité, les manifestations de gilets jaunes, ça n'a jamais été des millions de personnes dans la rue. Hein. Mais dès le moment où elles sont peu encadrées, il y a toujours des risques de débordement. Et donc, c'est peut-être pas la dernière poubelle qui brûle.
On parlait de dégradation tout à l'heure. Et là, cette autre image est évidemment très symbolique, puisque vous avez vu des poubelles en feu. Ça rejoint à l'autre actualité, c'est-à-dire que les éboueurs sont en grève, vous le savez. Les ordures ne sont pas ramassées depuis maintenant 10 jours dans la capitale. On avait dit, voilà, le lieu de passage du cortège, le tracé, le parcours est nettoyé de tout, de ces poubelles qui pourraient servir de projectiles. Bon. C'est pas très compliqué, hein. On imagine assez bien que c'est pas très compliqué d'en traîner sur quelques centaines de mètres des rues adjacentes. Et c'est visiblement ce qui est en train de se passer, parce qu'elles sont pleines à craquer. Voilà. Et ça peut être aussi dangereux, évidemment, parce qu'elles
sont pleines. Bien sûr, barricades, feux, slogans, tag, tout ça, c'est des éléments moteurs de la manifestation plus violente, on le sait. Et aujourd'hui, l'ordre public, c'est gérer deux manifestations en même temps. Une manifestation traditionnelle, qui d'ailleurs ne doit même pas se rendre compte de ce qu'il arrive, et une autre, souvent en pré-cortège, en tête de cortège, où on a affaire à des éléments radicaux qui font passer le service d'ordre en maintien de l'ordre, voire en rétablissement de l'ordre, avec des affrontements, des points de tension et des unités mobiles de sécurité qui sont obligées non seulement d'aller au contact, mais d'interpeller.
On est à peu près, d'ailleurs, de mémoire, au même endroit, à peu de choses près,
oui.
Hein, que les exactions de la dernière fois. Hein, c'était à peu près au niveau de Port-Royal, donc pas loin du boulevard du Montparnasse. Hein.
C'est ça, on est sur la même zone globalement.
C'est toujours à mi-parcours que ça intervient.
Oui, absolument. Les gens ont le temps de s'organiser, de se regrouper, de décider d'actions sur les flancs et sur les boutiques.
C'est l'image qui restera sans doute de ce milieu de journée, et on aura peut-être l'occasion plus aussi de parler de l'attitude de la mairie de Paris. Et d'Anne Hidalgo, pour ne pas la citer, ces poubelles qui n'ont pas été ramassées, pas de plan contingent après eux, en tout cas pas de décision politique pour faire appel à des services privés pour pallier la grève des éboueurs. Elle portera une forme de responsabilité dans ce conflit, Anne Hidalgo, pour vous?
Oui, c'est une circonstance aggravante, disons, la manifestation et le risque de se servir des ordures non ramassées comme projectiles. Mais la responsabilité première qu'elle porte, c'est de ne pas assumer ses devoirs en termes de santé et de salubrité publique. C'est surtout ça.
Et puis, ça va au-delà, puisqu'elle a décidé aujourd'hui qu'en signe de soutien avec la mobilisation, hein, qu'elle soutient, hein, qu'elle a appelé de ses voeux même, il n'y aurait pas de Conseil de Paris, enfin, il n'y aurait pas de travaux à la mairie de Paris. Donc, ça lui a été reproché, une décision unilatérale. Est-ce qu'elle outrepasse sa fonction en faisant ça?
Ah vraiment? Alors, Il y a une délicatesse lorsque vous avez une mairie, c'est notamment le cas au début du mouvement, qui dit à ses employés, bah, écoutez, soyez payés, mais faites grève. Là, il y a un vrai, vrai problème juridique. Par contre, et d'ailleurs, c'était condamné par l'ETA. Mais là, en l'occurrence, le fait de ne pas vouloir se supplier en mouvement parce qu'on soutient, ça m'apparaît relativement logique. On peut reprocher beaucoup de choses à Anne Hidalgo, sa gestion des déchets, la façon dont on traite le patrimoine à Paris, la façon dont on défigure la ville. Je ne suis pas sûr que là, une position politique assumée dans la légalité par la ville de Paris puisse lui être reprochée. En l'occurrence, elle est relativement cohérente avec elle-même et avec son positionnement politique.
Double fenêtre qui nous montre les mêmes images de dégradation avec des trottinettes qui ont été basculées, enfin qui sont tombées par terre, qui ont été poussées, des images
de poubelles. Ça va peut-être fâcher Anne Hidalgo.
Pardon ?
Ça va peut-être fâcher Anne Hidalgo, ça.
Ça va peut-être fâcher Anne Hidalgo, parce que là, si on s'en prend à ces trottinettes, attention. Non, mais blague à part, on est là au pied de la tour Montparnasse. Hein. On est sur le boulevard du Montparnasse, un endroit que les Parisiens connaissent bien dans le 14e, puisqu'on est vraiment au pied de la tour Maine-Montparnasse. Vincent Farandège, racontez-nous un petit peu ce qui s'y passe. Les poubelles, visiblement, ils en ont trouvé, ces éléments radicaux.
Oui, alors effectivement, ce sont des poubelles des rues alentours qui ont été amenées jusqu'ici. Ces poubelles-là ne se trouvaient pas sur sur le cortège, sur le trajet de la manifestation. Et je dois ajouter également que c'était pas des poubelles, des montagnes de poubelles qu'on a pu le voir ces derniers jours dans Paris. C'était des poubelles somme toute normales, mais qui étaient effectivement dans les rues adjacentes du trajet du parcours. Et effectivement, certains éléments perturbateurs en ont profité pour tenter d'ériger une espèce de barricade et de les incendier. On a vu quelques personnes, quelques citoyens, j'allais dire, qui ont tenté de remettre un petit peu d'ordre, d'éteindre également autant que possible ce feu de poubelle. Bon, ils ont vite été insultés également, ils ont vite abandonné. Donc des tensions vraiment en marge de cette manifestation, loin de ce qu'on a pu voir la semaine dernière, par exemple.
Vincent, on va en profiter un petit peu, tandis qu'on voit encore des panneaux de la ville qui ont été dégradés sous vos yeux. On voit quand même que les gens continuent d'aller et venir autour, c'est-à-dire que, bon an, mal an, la manifestation peut quand même progresser malgré ces entraves sur le parcours, sur le passage.
Oui, la manifestation continue. On est vraiment juste devant le cortège officiel. Hein, et on voit juste derrière nous, effectivement, le cortège officiel avec tous les responsables syndicaux qui poursuit sa route, bon, assez lentement effectivement, mais ça n'arrête pas le cortège effectivement qui va détourner ce feu de poubelle, parce que encore une fois les tensions que l'on voit aujourd'hui dans le cortège, en tout cas pour le moment, sont vraiment en marge et loin d'être aussi importantes que celles de la semaine dernière. Donc les services de sécurité des syndicats estiment que le cortège peut poursuivre sa route normalement.
Merci beaucoup, Vincent. Vous nous joignez dès qu'il se passe quelque chose de concernant ou de significatif, et on reviendra vers vous. À quoi ça sert, Pascal Vitopalli, mettre des poubelles comme ça, enfin, du point de vue des radicaux, c'est pas vraiment un projectile, c'est vraiment mettre le feu pour montrer qu'on est là.
C'est ça. Afficher sa présence, sa détermination. On est là, on fait un peu ce qu'on veut. Même si le parcours a été nettoyé, en guerrier urbain que nous sommes, on va chercher du matériel. Et on dégrade, on montre, on affiche notre présence et notre volonté de guérilla.
C'est un peu le symbole de la barricade, quoi.
C'est ça,
revient aux fondamentaux de,
absolument, c'est
de
ça.
La barricade. Ouais.
Voilà. Bon, pour autant, vous avez vu l'ensemble de la manifestation, grâce à la technicité des forces mobiles, quand même, dans cette dynamique de progression, et je dirais quasi normale. On arrive à isoler, à cisailler ces éléments pour faire baisser la température et faire en sorte que le reste de la manifestation puisse se dérouler normalement pour arriver à l'équilibre, sécurité et liberté, ce qui n'est pas toujours simple.
On parlait de densité des manifestations. Là, on n'est pas quand même sur une manifestation très dense. On sait que les effectifs sont moindres. Ça va peut-être contrecarrer les projets de ceux qui veulent en venir aux mains.
Oui, peut-être avoir plus de difficultés de pénétration et de dissimulation. N'oublions pas qu'en plus, on a quand même des services d'ordre syndicaux qui sont très présents, qui sont en muscle et qui sont efficaces, qui protègent leurs manifestations et qui parfois interviennent eux-mêmes avant les forces de l'ordre et font sortir des gens qui font monter la tension. Donc il y a quand même plus, dans ces manifestations co-organisées, difficultés pour les ultras de pouvoir semer la tension et la panique.
On va parler un peu de politique parce que vous savez, les leaders de la gauche, eux aussi, veulent tenir bon. Ils étaient dans la rue. Jean-Luc Mélenchon a rompu avec sa tradition de manifester à Marseille puisqu'il était à Paris cet après-midi pour ce grand jour, hein, puisque ça se passe aussi à l'Assemblée nationale, je vous le rappelle. Donc il voulait sans doute montrer qu'il était lui aussi dans la capitale, là où les décisions se prennent aujourd'hui. Et écoutez ce qu'il a dit juste avant que le cortège ne s'élance.
J'essaye de rouler tout le monde en faisant des promesses, des paroles creuses. Et là, ils sont en train d'essayer d'entortiller les Républicains qui sont là comme une espèce de bagages accompagnés qui attend qu'on les descende du train, là, et ils essayent de les rouler à la commission mixte paritaire. Donc c'est un moment où la bataille est à nouveau sur deux fronts, l'Assemblée jusqu'à demain et la rue jusqu'à ce que le retrait ait lieu.
Ça sert à quoi de chanter de manière respectueuse de slogans? Ça sert à quoi de rester calme? Ils n'écoutent pas, et donc évidemment qu'il y a beaucoup d'inquiétudes sur ce qui peut se passer si le gouvernement continue de ne pas écouter.
Et donc nous sommes en train de discuter de la façon dont nous pourrons avancer et tous les outils à notre main pour continuer la mobilisation.
Il y aura beaucoup d'inquiétudes sur ce qui va se passer si le gouvernement fait la sourde oreille. Marine Tondelier qui disait ça. Ça veut dire quoi? Qu'on va vers un climat insurrectionnel potentiellement?
Il ne faudrait pas créditer Marine Tondelier d'Europe Écologie Les Verts d'une capacité de mobilisation plus grande qu'elle ne l'est en réalité.
C'est la crainte qu'elle émet. Je ne sais pas si elle est capable de.
Mais le commentaire vaut pour l'ensemble des dirigeants politiques que vous venez de montrer. On a bien vu quand Jean-Luc Mélenchon a essayé de mobiliser la jeunesse, il avait lancé une marche de la jeunesse qui n'a absolument pas mobilisé, ou en tout cas dans des effectifs très 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 loin de ses espérances. Dans ce mouvement, les politiques de gauche se sont mis à la remorque des syndicats. Alors ils essaient de présenter la chose comme vient de le faire Mélenchon, en disant il y a deux combats qui se mènent, un à l'Assemblée où Mélenchon n'est pas, un dans la rue où il est à la remorque des syndicats. Dans les deux cas, ce n'est pas lui qui est à la manœuvre.
Benjamin Morel, votre commentaire sur Jean-Luc Mélenchon et la gauche qui se met un petit peu dans le, comment dire, qui embraye le pas des syndicats, mais qui clairement n'a pas été à la manœuvre sur cette mobilisation.
Non, elle n'a pas été à la manœuvre dans cette mobilisation, mais les partis politiques de manière générale ont toutes les difficultés du monde à être à la manœuvre. Donc là, on a des syndicats et des syndicats qui ont réussi à relativement bien structurer cette mobilisation. Mais la question, c'est pourquoi? Et le vrai danger, c'est si jamais cette réforme passe, quoi qu'on pense de cette réforme sur le fond, eh bien, quels peuvent être demain les leviers de contestation? Si les partis politiques, même quand ils imposent à une majorité relative à l'Assemblée nationale, n'ont pas des moyens de levier pour faire valoir une opinion, alors que vous avez 60 à 70% d'opinion qui a tort ou a raison et contre la réforme. Si les syndicats qui battent des records de mobilisation, 1 300 000, 1 400 000 selon les chiffres lors des pics, lors de cette crise, eh bien, n'arrive pas non plus à faire tomber une réforme. Bah, si jamais je suis en colère, si jamais je suis contre la réforme, quelles sont mes possibilités? Et là, il y a deux possibilités. Marine Le Pen disait au début de l'examen parlementaire, il y a un parallèle à faire avec 2005. Elle n'a pas tort sur ce point, le référendum. Soit je considère que le politique ne veut plus, ne peut plus les corseter, auquel cas je me réfugie dans l'abstention. Soit je suis très très en colère. Et dans ce cas-là, j'ai deux options. Soit le vote anti-système, soit la gilet jaunisation et je retrouve les ronds-points. Donc le vrai risque à terme, c'est une frustration démocratique qui se manifeste soit par la dépolitisation, soit par un vote qui va être un vote visant à faire exploser le système.
La comparaison avec le référendum de 2005 a quand même des limites, parce que là, effectivement, il y avait conflit de légitimité. On ne peut pas, en tout cas c'est mon opinion, en démocratie, opposer une légitimité des sondages, même si la majorité des sondés, une majorité écrasante des sondés, désapprouve et critique cette réforme, à l'expression du suffrage universel.
Non, certes, mais quand on regarde un petit peu la procédure liée à cette réforme, les constitutionnalistes sont heureux du dernier mois. On n'a jamais parlé autant de droits constitutionnels.
Ah oui, sans doute.
Mais malgré tout, on a un Parlement qui a été quelque peu marginalisé, avec tous les dispositifs possibles et imaginables, et même ceux qu'on n'imaginait pas, pour justement marginaliser ce Parlement. Et ça, à tort ou à raison, ça a été ressenti par l'opinion, avec le sentiment, surtout si on devait aller vers un 49 alinéa 3, eh bien que certes, il y a eu un vote aux législatives, certes, ce vote n'a pas donné de majorité absolue, mais que, in fine, bon an, mal an, eh bien, le gouvernement fait ce qu'il veut. Et là, évidemment, d'un point de vue démocratique, ça crée un conflit de légitimité, quoi qu'il en soit.
On va prendre le pouls de ce qui se passe du côté de l'Assemblée nationale. On nous attend à nouveau Élodie Huchard, tandis qu'on garde bien sûr une partie de ces images sous les yeux, avec toujours les forces de l'ordre qui sont en bonne place et en action pour sécuriser le parcours. On est peu ou prou au même endroit qu'il y a une grosse semaine, hein, vous le voyez, enfin une dizaine de jours maintenant, avec la rotonde. On est là à l'angle du boulevard Montparnasse et du boulevard Raspail. Élodie Huchard, vous êtes au Palais Bourbon. Où en est la commission mixte paritaire à 7h ?
Paritaire est toujours en train d'étudier l'article 9. Il faut se rappeler que la première partie du texte de loi, les articles 1 à 6, donc la partie recette, a déjà été votée. Les articles emblématiques, même si évidemment tous les articles sont importants, l'article 7 pour l'âge légal de départ à la retraite et l'article 8 sur les carrières longues, c'est fait aussi. C'est quand même un gros morceau pour le gouvernement. On sent quand même que les parlementaires qui sont au sein de cette commission commencent à nous dire que c'est un peu fatigant. De toute façon, on le sait, cette commission mixte paritaire, elle va être conclusive. On sait qu'il y avait eu de toute façon un accord en amont, à la fois entre l'Assemblée et le Sénat, mais aussi entre la majorité et puis la droite. Donc forcément, ça traîne et ça commence à agacer. Mais on le voit, la gauche, tous les groupes de gauche d'ailleurs, continuent d'avoir la même attitude qu'au Parlement, la même attitude qu'ils ont eue par exemple au Sénat quand ils ont voulu continuer de défendre leurs amendements, même si c'était uniquement de manière symbolique. Eh bien, la gauche continue de faire des points presse assez réguliers en salle des quatre colonnes juste derrière moi, continue aussi de défendre ces amendements et aussi de lutter contre ce qu'ils appellent être les mensonges de cette loi.
Juste pour avoir un petit, une petite idée du temps que ça prendra, à la louche, vers quelle heure les choses devraient être pliées ce soir, enfin, qu'est-ce qui se dit dans les couloirs précisément ?
Alors, dans les couloirs, les plus optimistes nous disent 17h. Mais ce que aussi je peux vous dire, c'est que depuis tout à l'heure, plus on avance dans le temps, plus les horaires changent. On est sur la partie de la loi qui est en théorie la plus rapide à examiner pour les députés. A priori, on n'ira pas jusqu'à minuit, mais on nous dit 17h. Ça me semble peut-être un peu optimiste quand même.
Je dis bon, on vous retrouvera puisque 17h, c'est notre heure. Donc, on viendra vous voir bien avant. Benjamin Morel, ce qui est assez cocasse dans cette histoire, c'est que on évoque presque pour la première fois pour le grand public l'article 9, alors qu'on n'était même pas allé jusqu'au fameux 7. On pensait, beaucoup croyaient d'ailleurs que les choses et que les débats se refermaient autour de l'article 7, que c'était lui qui vraiment venait clore les choses. Or, on se rend compte qu'il y en avait beaucoup plus et que même pas en rêve, à l'Assemblée, lorsqu'il y avait des milliers d'amendements déposés, y serait-on arrivé un jour, hein ?
Alors, même pas en rêve,
ne serait-ce que pour les évoquer, quelle que soit l'issue, bien sûr.
Exactement, même pas en rêve, on aurait pu l'examiner à l'Assemblée nationale au vu du temps contraint et au vu de l'usage assez mauvais en réalité des dispositifs anti-obstruction. Hein. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a quand même des choses qui ont été introduites en 2009 qui auraient pu être utilisées par le gouvernement qui ne l'ont pas été. Résultat, on est arrivé à l'article 2. Au Sénat, eh ben, on a eu certes un examen du texte en entier, mais à partir justement de l'article 10, on est passé au vote bloqué. Et donc, avec le vote bloqué, ben, il y a eu un examen, mais un examen qui était tout de même assez cavalier, assez rapide, puisqu'on pouvait présenter les amendements de façon extrêmement rapide, avec un seul orateur, etc. Oui. Donc, au fond, ce qui peut-être est problématique dans ce texte, c'est qu'avant aujourd'hui, bah, l'examen réel avec la possibilité d'amender article par article, le Parlement ne l'a jamais eu. Il ne l'a qu'aujourd'hui en commission mixte paritaire à huis clos. Et alors, il y a eu tout un débat sur faut-il une commission mixte paritaire à huis clos. En règle générale, oui, les parlementaires sont demandeurs, tout bêtement, parce que c'est le seul moment où ils peuvent délibérer sans avoir le gouvernement sur le dos. Mais là, en effet, le fait que ces articles de la fin du texte ne soit examiné que dans ce cadre-là, réellement, bah, ça pose un problème de lisibilité démocratique, de visibilité démocratique. Et là, quoi qu'on pense du texte, encore une fois, d'un point de vue procédural, le gouvernement s'est quand même pris comme un manche. On aurait pu faire autrement et on aurait pu voir le même texte dans de meilleures conditions. Là, c'est une bonne leçon de ce qu'il ne faut pas faire en termes parlementaires.
Avec plus de temps, plutôt que à
TF3. Même pas plus de temps. Vous savez, en 2009, on a introduit ce qu'on appelle le temps législatif programmé. Vous prévoyez un temps et ce temps limité, vous examinez le texte dedans, vous le prévoyez en avance en conférence des présidents. Ça aurait pu être déclenché si le gouvernement avait agi un peu différemment, laissé 6 semaines de battement, etc.
Mais ça marche là aussi s'il n'y a pas d'amendement. Mais s'il y en a des milliers, comme
pareil. Pareil. Exactement pareil. C'était inventé à l'époque lors de la révision Sarkozy, justement pour mettre fin à l'obstruction. Encore faut-il l'utiliser. Ils ont été incapables de l'utiliser en 2020. Ils ont été incapables de l'utiliser en 2023. En 2020, ça a donné les scènes qu'on a, dont on se souvient avec le 49 alinéa 3 d'Edouard Philippe, une veille de municipale. Et là, ça donne un 47-1 et une procédure passée à la hussarde, avec qui plus est de vrais risques en termes de constitutionnalité.
Vous le rejoignez dans ce constat, Judith ?
C'est mobile de sécurité qui protège la rotonde sont les CRS et les gendarmes qui sont là pour l'ordre public. Mais on a, comme je vous le disais précédemment, des modules d'intervention qui vont interpeller les individus qui cassent ou qui sèment la tension ou qui sont venus affronter les forces de police pour les extraire, pour essayer de les séparer, de faire en sorte de faire tout de suite redescendre la tension pour repartir ensuite en profondeur et faire disparaître les forces de l'ordre, pour essayer d'être au maximum dans, je dirais, quelque chose de beaucoup moins rugueux qu'on a pu le voir avec le préfet précédent.
Il est 16h30 quasiment. Si vous avez raté l'actualité du jour, le rappel des principaux titres, c'est tout de suite en compagnie de Mickaël Dos Santos. Bonjour Mickaël.
La mobilisation en légère hausse à Lyon. 8500 personnes ont manifesté aujourd'hui selon la préfecture du Rhône. C'est 1500 de plus que le 11 mars dernier. Selon la CGT, 22 000 manifestants étaient réunis aujourd'hui dans les rues de Lyon. Le fort de Brégançon sans électricité. Selon le président de la CFE-CGC Énergie Côte d'Azur, la résidence présidentielle, lieu de vacances du couple Macron dans le Var, a été touchée par plusieurs coupures de courant. Un geste symbolique en pleine contestation contre la réforme des retraites. Enfin, 57% des Français sont favorables à des réquisitions de personnel pour ramasser les poubelles à Paris. C'est le résultat du récent sondage CSA pour CNews. Un chiffre qui grimpe à 62% pour les habitants de la capitale. Depuis 10 jours, les éboueurs sont en grève pour protester contre la réforme des retraites.
Et on aura sans doute l'occasion d'y revenir, de commenter ces images et les décisions ou manque de décisions du côté de la mairie de Paris. Mais puisqu'on est c'est un jour de manif, on va rejoindre sans plus tarder l'une de nos équipes. On a trois équipes aujourd'hui sur le cortège parisien. En l'occurrence, Jeanne Cancard. Jeanne, on le rappelle, il y a eu des échauffourées, mais l'accalmie est assez vite revenue quand même, il faut le signaler.
Oui, les forces de l'ordre ont très rapidement su calmer ces tensions, su encadrer les éléments radicaux qui s'en prenaient à eux pour ensuite permettre quelques interpellations qui ont eu lieu. Ce qu'on peut vous dire aujourd'hui, ce qui nous frappe, nous, dans cette manifestation, pour avoir fait les mobilisations précédentes, c'est le dispositif policier. Le dispositif policier qui est réellement impressionnant. Au début de la manifestation, quand le cortège s'était lancé, on peut dire que les forces de l'ordre étaient assez discrètes. On ne les voyait pas. Elles étaient plutôt barricadées dans les rues perpendiculaire au cortège, alors que là, depuis évidemment qu'il y a eu les tensions qui ont éclaté, le dispositif policier, il est très voyant, et c'est peut-être ça aussi qui a permis à l'accalmie de revenir ici dans la manifestation. Il faut savoir que nous, on n'est pas dans le cortège, on est vraiment dans le pré-cortège, là où il n'y a pas encore les syndicats, là où il y a quelques manifestants, et donc là où il y avait les éléments radicaux qui maintenant ont en tout cas, à notre vue, disparu. Des manifestants qui espèrent évidemment que la mobilisation se déroule le plus possible dans le calme. Manifestation qui se poursuit ici pour arriver place d'Italie.
Est-ce que vous avez vu, Jeanne, je vais vous garder quelques secondes, quelques minutes même, est-ce que vous avez vu sous vos yeux quelques interpellations, des arrestations et est-ce que ça se passait de la même manière qu'il y a une dizaine de jours, c'est-à-dire qu'on cible et on intervient par petits groupes de manière assez éclair, rapide?
Oui, c'est la stratégie. Après, vous dire précisément s'il y a eu des interpellations, c'est toujours difficile. Mais en tout cas, il y a eu ils ont fait en sorte d'exfiltrer les personnes, quelques personnes qui posaient problème. Après, il faut savoir qu'il y avait évidemment des fouilles qui sont effectuées par les forces de l'ordre avant que le cortège ne s'élance. Mais parfois, les fouilles laissent passer évidemment certains individus qui ont l'habitude, qui vont se changer, qui cachent parfois même des habits ici sur le parcours pour après se transformer à ce qu'on appelle, vous savez, des black blocs et qui viennent donc semer et créer les tensions ici dans le cortège. Nous, ce qui nous a aussi évidemment frappé lors de ces tensions, c'est ces images assez habituelles, malheureusement, de personnes qui s'en prennent aux vitrines de magasins. Généralement, c'est plutôt d'ailleurs, vous savez, tout ce qui va représenter un petit peu le capitalisme. Ça va être les banques, les sociétés d'assurance. Mais là, par exemple, c'était une société d'intérêt, mais puis aussi, comme d'habitude, les panneaux publicitaires, les abris de bus et des poubelles. Donc forcément, ça a aussi une connotation un petit peu particulière en ce moment. Des poubelles qui n'ont pas forcément été ramassées, mais elles n'étaient pas très nombreux, c'était quelques poubelles qui ont été prises pour être, qui ont donc été incendiées et pour faire une espèce de barricade.
Une dernière question, est-ce qu'il y a un itinéraire d'ordinaire, il y a un itinéraire bis, enfin une sorte d'itinéraire de délestage qui est prévu, est-ce que ça a été le cas aujourd'hui encore ou pas du tout ?
Alors, il y a toujours un itinéraire bis, oui, en effet, qui est prévu par les forces de l'ordre en cas de problème. Et puis aussi, s'il y a une forte affluence. Là, pour l'instant, nous, on est vraiment sur l'itinéraire, sur le parcours, on va dire, classique, le parcours qui était prévu pour ces manifestants. Alors là, vous l'entendez, on accélère un petit peu le pas parce que forcément, on entend parfois des tensions qui peuvent éclater un petit peu plus en amont, un petit peu plus devant le cortège, des tensions qui arrivent, qui s'arrêtent. C'est un petit peu le jeu du chat et la souris, malheureusement, avec des tensions qui ont lieu à certains moments de la manifestation. Et les forces de l'ordre qui font donc leur maximum pour éviter ces tensions et pour donc que les manifestants puissent marcher ici, continuer le cortège pour évidemment afficher leur colère. Et ça, c'est la dernière ligne droite un petit peu pour eux, pour afficher leur colère et leur refus de cette réforme des retraites.
Merci, parce que le son est devenu un petit peu chaotique, ça crachouille un petit peu. Alors c'est très intéressant. Souvenez-vous, on est au même point d'échafaudage où les heurts avaient éclaté la dernière fois. Corrigez-moi si je me trompe, mais bon, l'immeuble est toujours en réfection, on n'a pas enlevé l'échafaudage, hein, mais ça avait servi de projectile. Là, les policiers l'ont compris, ils sont en train de sécuriser cet angle, Pascal Pitopanelli.
C'est ça, absolument. Sur les points de vulnérabilité, de tension du dernier épisode, bien sûr, la préfecture de police prend les devants et décide en amont de sécuriser certains points, la rotonde et cet établissement et cet échafaudage, de manière cette fois, bien sûr, non seulement à éviter la réitération des choses et les débordements. Je vois sous votre titre un dispositif de sécurité musclé. C'est bien sûr l'évidence. Quand on a autant de monde dans les rues, il faut être très prudent, avoir toujours un dispositif bien calibré et bien dimensionné, et surtout ne pas être en risque d'être en sous-effectif. Ça serait une grosse erreur, parce que les dynamiques de basculement du maintien de l'ordre peuvent surgir en quelques secondes.
On les voit là, ils sont mobiles maintenant, ils sécurisent un endroit, puis ils bougent en même temps que le cortège pour se rendre vers un autre. Et là, on est vraiment une image de plein pied, hein, de ces forces de l'ordre. On est aux premières loges grâce à nos équipes, à qui on rend hommage, merci, et aux images d'ailleurs de Fabrice Elsner, que j'ai oublié de citer tout à l'heure. Concernant la physionomie de ces manifestants, qu'on aperçoit un petit peu mieux sur la droite de l'écran, Judith Weintraub, vous, il vous semble quand même qu'il y a des catégories en âge ou catégories socioprofessionnelles qui sont quand même assez marquées.
Alors, socioprofessionnel, c'est difficile à dire, ça ne se voit
non,
pas.
Non, enfin, socioprofessionnel, c'est-à-dire...
marqué sur la tête, ouais, des gens.
Retraité, mais... retraité, en âge, plutôt en âge, alors.
En, en âge, tout à fait, du très jeune et du vieux.
Sans ça, c'est vous qui le dites.
Oui, oui, j'assume. Bon, âge de la retraite, en tout
des
cas.
Seniors, ouais.
Des seniors, on va dire, pour utiliser le politiquement correct. d'une part, ça... D'autre part, ce que vous disiez sur les catégories socioprofessionnelles, on le sait pour avoir posé les questions dans les manifs, hein, les journalistes du Figaro posaient les questions, et on s'aperçut notamment dans les petites villes de province que la forte mobilisation n'était pas due au fait que des gens du privé se joignaient aux gens de la fonction publique, mais simplement au fait que l'emploi dans la fonction publique avait pris une place très importante dans certaines villes de province. Je pense par exemple à Digne-les-Bains dans les Alpes-de-Haute-Provence où l'hôpital emploie 1000 personnes sur 30 000 habitants au total.
C'est
donc ça fait
volume.
Énormément de monde. Il y a des tas de petites villes de province comme ça qui vivotent grâce au CHU du coin, qui est un gros fournisseur d'emplois. Et c'est cette place prépondérante de l'emploi public dans l'emploi en général. En moyenne nationale, c'est 21%. Dans un coin comme Digne-les-Bains, on est à plus de 30%, par exemple. C'est pour vous donner une idée. Alors, effectivement, ces gens-là qui sont facilement mobilisables, bien que, je le rappelle, la réforme des retraites ne change rien au mode de calcul des retraités de la fonction publique, hein, qui s'effectue toujours sur les 6 derniers mois, alors que pour les salariés du privé, c'est sur les 25 meilleures années de la carrière. Ça fait une grosse différence.
Une grosse différence, parce que généralement...
Oui, je rappelle qu'en plus, dans la fonction publique, on a droit à une part de capitalisation qui permet en fait de cotiser sur ses primes. C'est comme ça que le système se passe. Chose qu'on n'a pas avec le même régime fiscal dans le privé, en tout cas très marginalement. Dans la fonction publique, c'est une part de capitalisation obligatoire.
Benjamin, pour compléter le propos, peut-être petit avantage dont dispose, puisqu'il n'y a pas de lissage sur 25 ans, dont disposent les fonctionnaires.
C'est surtout sur le sujet territorial, en réalité. Là, je rejoins tout à fait ce qui a été dit. Si vous regardez, en réalité, les villes moyennes ou les territoires hors métropole, vous avez deux sources de revenus principales. Les salaires des fonctionnaires et les pensions. Si vous touchez à l'un, à l'autre, avec des publics mobilisables, forcément, vous avez une situation problématique parce que même si vous êtes dans le privé, bah, mon fleuriste, comment est-ce qu'il vit? Il vit indirectement du salaire des locaux. Et les salaires, c'est quoi? Bah, c'est soit, en effet, les traitements des fonctionnaires, soit les pensions. Oui. Donc, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, notre modèle d'égalité territoriale très dysfonctionnel ne tient en grande partie qu'à ça. Il tient justement à ces deux sources-là. Et donc, quand vous avez une telle réforme, vous avez un sentiment accru de fragilité au sein de ces territoires. Et ça explique aujourd'hui pourquoi, en effet, il y a une mobilisation qui est très forte.
Oui, Emmanuel, c'est aussi un signe de profonds problèmes économiques. Ça veut dire que l'industrie a terriblement reculé.
Alors que ce sont des territoires qui pourraient justement porter une politique économique industrielle intéressante.
Alors, parlons quand même de la suite de la mobilisation. Parce que, bon, quelle que soit l'issue du vote demain, évidemment, si c'est le 49-3 qui est enclenché, ça risque de revigorer un peu tout le monde, en tout cas de provoquer une colère.
En tout cas, ça fournira une raison à Laurent Berger et à la CFDT pour continuer à appeler
absolument
à manifester.
Absolument. Donc voilà, le fonds syndical sera intact. Pour l'instant, on n'en est pas là. Enfin, on verra demain qui sera dans l'hémicycle et qui n'y sera pas. Enfin, dans les deux chambres. Du côté du Sénat, il ne devrait pas y avoir trop de surprises, a priori. Mais bon, voilà, ça détermine grandement la suite de la mobilisation, sachant que ça coûte, on le rappelle quand même, ça coûte cher aux salariés de faire grève. Ils ne peuvent pas se permettre de descendre dans les rues tous les 2-3 jours. Donc, c'est ça aussi.
Depuis que Jean-Pierre Raffarin a décidé.
C'est aussi là-dessus.
On ne paierait plus les jours de grève dans les rues.
Est-ce que ce n'est pas de manière un peu cynique là-dessus aussi que mise Emmanuel Macron, qui le savait fort bien lorsqu'il a décidé de ce calendrier, alors que l'inflation commençait à pointer le bout de son nez?
L'objectif, si vous voulez, une fois que vous avez voté un texte, c'est que le fleuve rentre dans son lit. Après, entre guillemets, la situation malgré tout rend pour Emmanuel Macron la suite de la mobilisation relativement incontrôlable. Aujourd'hui, il y a des sources, il y a des fondements à cette mobilisation qui sont certes la question des retraites, mais quand vous interrogez les manifestants, et c'est vous l'a fait, vous voyez qu'il y a d'autres motivations.
Tout le reste.
C'est tout le reste. Et donc, la possibilité que demain, ce mouvement, malgré tout, perdure, malgré tout, continue, est un vrai point d'insécurité pour le gouvernement. Donc certes, il y a l'argument qui est de crise de l'inflation et donc difficulté à faire grève. Mais aujourd'hui, vous voyez que la possibilité de bloquer un service, si c'est vraiment voulu, on l'a vu notamment pour les raffineries, n'implique pas forcément d'avoir une grève de l'ensemble du personnel. Vous avez besoin de quelques éléments bloquants. En revanche, la possibilité de voir la contestation s'élargir sur les sujets de pouvoir d'achat, ça c'est très très compliqué, très radioactif pour le gouvernement. C'est évidemment ce qui est craint. Il faudra voir si demain, en effet, ces mobilisations perdurent et si elles finissent hors de contrôle.
Donc il y a encore des paramètres qu'on ne maîtrise pas. Alors juste une petite...
Non, vous nous avez montré tout à l'heure... c'était pas une précision, c'était pour aller dans le même sens. Vous nous avez montré tout à l'heure le sondage sur ce que les Français pensent de la grève des éboueurs, la mobilisation chez les éboueurs. On voit qu'ils sont manifestement favorables aux réquisitions. Donc en fait, les Français, quand on les interroge sur les blocages en général, sur la mobilisation en général, ils disent allez-y.
Sur les transports, d'ailleurs, ils ont été assez soft.
Voilà. Mais quand ça les touche directement par le biais des poubelles pas ramassées, alors là, ça change.
On va faire un détour par le parcours, le cortège, avec ces musiques que vous entendez derrière et ces tambours qui signifient que, a priori, tout se passe bien. En tout cas, ça se passe de manière plutôt bonne enfant sur le parcours. Vincent Farandège, vous êtes avec une de ces manifestantes. Je vous laisse la parole.
Oui Nelly, vous savez, on aime pendant les cortèges, les manifestations, parler aux manifestantes et aux manifestants pour savoir un petit peu pourquoi ils sont là, un petit peu établir leur profil également. Et on est tombé sur Valérie. Valérie a 58 ans, elle est chercheuse, vous êtes chercheuse. Valérie, bonjour, merci d'être avec nous en direct. C'est pas la première fois que vous descendez dans la rue contre la réforme des retraites. Vous arrivez normalement bientôt à la retraite. Pourquoi vous manifestez aujourd'hui contre cette réforme ?
Alors, je suis absolument contre cette réforme de la retraite. Alors, pour ce qui me concerne, vous savez, ma retraite, actuellement, avant la réforme, elle devrait être à 62 ans. Mais il me faudrait attendre 67 ans pour toucher 75% de ma retraite. Donc pas à taux plein. Jamais j'obtiendrai ma retraite à taux plein à plus de 70 ans. Hein, vous avez compris. Donc je ne peux pas envisager encore un recul de 2 ans qui reporterait d'autant la possibilité que je sois à la retraite normalement. Je fais un métier passionnant. Je suis aussi grand-mère de 3 petits-enfants et je veux pouvoir profiter en bonne santé de ce moment-là, partager avec eux.
Vous avez calculé, si la réforme venait à passer, à être votée, à quel âge vous partiriez à la retraite ?
C'est des annuités que je n'atteindrai jamais, c'est d'autant plus important, plus de 70 ans.
Et si jamais la loi est votée demain, ou alors si jamais le gouvernement utilise les 49.3, vous allez continuer à descendre dans la...
Je continuerai à me battre, ça c'est certain. C'est...
Même si la loi est votée au Parlement ?
Absolument. Je compte un bac pour moi, mais vous savez, pour les générations à venir, c'est tous ces jeunes à qui, que j'encourage à faire des études comme j'en ai fait moi. J'ai fait 10 ans d'études, 5 ans à l'étranger, 5 ans à l'étranger qui ne sont pas pris en compte dans le calcul de ma retraite. Mais je continuerai quand même à encourager mes enfants, mes petits-enfants à étudier, à faire des boulots intéressants, mais à se défendre pour ce droit à la retraite. C'est un minimum.
Merci beaucoup, Valérie, d'avoir été avec nous. Et justement, le témoignage de Valérie, il est assez symbolique de ce qu'on entend depuis le début de cette manifestation. Des manifestants qui, même si la loi est votée par un vote au Parlement ou par un 49-3, ces manifestants qui continueront à descendre dans la rue contre cette réforme.
Merci beaucoup, Benjamin Morel. Bon, voilà, il faut en prendre en laisser. On n'est pas toujours d'accord non plus avec tout ce que disent les manifestants. Enfin, il faut aussi remettre un petit peu de mesure dans tout cela. Votre sentiment sur le degré de... Comment dire sur les motivations des uns et des autres. C'est-à-dire que tout le monde voit la même chose ou il y a aussi des disparités par rapport au degré de mobilisation. C'est-à-dire qu'il y en a qui manifestent certes pour les retraites, mais d'autres qui sont peut-être plus portés à s'opposer au pouvoir d'achat, au manque de pouvoir d'achat ou à l'inflation.
Je crois qu'il y a 3 types aujourd'hui de motivation. Il y a la motivation originelle qui est évidemment la motivation concernant la réforme des retraites. Cette motivation-là, on peut la comprendre, elle est raccord aujourd'hui avec les mots d'ordre. Ensuite, il y a la mobilisation pouvoir d'achat, qui est clairement pas distinguable, mais qui touche une catégorie beaucoup plus large. Tout à l'heure, on commentait le profil de ceux qui manifestent. Et beaucoup de retraités et de jeunes, en effet. Alors, les jeunes peuvent être évidemment concernés par la retraite, mais il y aura d'ici là plusieurs réformes, et ce ne sont pas forcément les catégories qui ressentent avec le plus d'urgence le sujet, même s'il ne faut pas négliger, évidemment, l'angoisse vis-à-vis d'avenir. En revanche, le sujet pouvoir d'achat les impacte directement, idem pour les retraités. Et donc là, il y a un élément fort de la structuration dans le long terme d'une contestation sociale. Et ensuite, vous avez toute une partie de la population qui, aujourd'hui, rentre dans une crise larvée vis-à-vis du pouvoir. Regardez certaines enquêtes qui sont parues sur la colère des Français vis-à-vis du gouvernement, etc. Il y a aujourd'hui une colère qui est latente. On a eu un gouvernement qui, depuis déjà la précédente législature, a toujours été extrêmement clivant. Grosso modo, si vous prenez notamment la figure d'Emmanuel Macron dans les enquêtes, vous avez un soutien fort dans une base qui est une base de soutien et un rejet fort, au contraire, dans une base d'opposants. Et ça, évidemment, quand vous rentrez dans une logique de crise sociale larvée, de crise économique, eh bien, vous avez tout d'un coup une surmobilisation politique. Et cette surmobilisation politique, eh bien, elle peut potentiellement être extrêmement explosive, extrêmement dangereuse. Donc, à voir ce que ça donne. Pour le gouvernement, le pari, c'est qu'une fois le texte voté, tout se termine. Il n'est pas évident que ce soit le cas.
Pascal Bito-Banelli, tandis qu'on découvre sur ces images à nouveau les forces de l'ordre qui sont en mission de sécurisation, là, ils sont devant une pharmacie, bon, il y a certains lieux stratégiques comme ça qu'on protège plus volontiers. Ça nous permet peut-être de revenir aussi sur le dispositif. On a entendu quelques tirs, là, soit de mortier, soit de gaz lacrymogène. Enfin bon, sans commune mesure avec ce qu'on a pu apercevoir et un petit peu plus tôt cet après-midi et lors de la manifestation passée avec les dégradations que l'on sait, ça nous donne peut-être l'occasion de revenir sur la méthode Laurent Nunez de maintien de l'ordre qui tranche évidemment avec celle de Didier Lallement en son temps. Qu'est-ce qui fait sa spécificité ? Pourquoi est-il crédité finalement de ce point de vue ?
Alors, on reste sur la doctrine du schéma national de maintien de l'ordre de 2020, oui. Mais on est sur une pratique qui est différente et une mise en action opérationnelle différente, c'est-à-dire avec des éléments lourds de pur maintien de l'ordre, CRS et gendarmerie mobile, qu'on sort du décor, qu'on met plus en retrait, mais bien sûr prêt à revenir en jalonnement ou en intervention, et, comme précisé, des unités mobiles d'intervention et d'interpellation pour, en fulgurance et en mobilité totale, interpeller les individus, les sortir et faire redescendre la tension. On avait du temps de M. Lallement, technique de maintien de l'ordre, qui était plus sur l'interopérabilité dynamique et qui faisait intervenir beaucoup plus les éléments d'intervention pour faire du flagrant délit. Donc on était sur des choses plus rugueuses et plus impactantes. Donc on a ce nouveau préfet qui pratique non seulement cette technique, mais aussi celle du dialogue, de l'ouverture, de la cogestion, de la coopération. On voit aujourd'hui que les portes de la préfecture de police sont ouvertes, non seulement avec les organisateurs, avec l'hôtel de ville, et avec l'ensemble des acteurs de l'ordre public, ce qui est très important, surtout à la veille de très gros événements comme la Coupe du Monde de rugby en septembre et bien sûr les Jeux Olympiques de 2024.
On dit qu'un peu de chahut à nouveau se produit. Je ne sais pas exactement à quel niveau on est du cortège, mais je vous laisse peut-être commenter ces images de
quelques
charge.
Quelques points de tension, bien sûr, avec des éléments perturbateurs qui ressortent et qui sont tout de suite, pour le moment, canalisés et mis à distance par les forces de l'ordre qui, pour l'instant, vont utiliser les grenades et le gaz lacrymogène pour mettre à distance, éviter le contact, jusqu'à ce qu'il y ait sans doute des interpellations.
Mais là, ce qui est plus concernant, c'est que tout à l'heure, il y avait un face-à-face avec une certaine distance quand même. Là, il y a vraiment une charge. Voilà. Mais au plus près, il y a un face-à-face assez direct. Hein.
Avec des beaux offensifs. C'est un point de tension, donc on va tout de suite faire intervenir ces modules d'intervention pour sans doute interpeller et faire redescendre la tension et d'autres unités qui vont se mettre en barrage d'arrêt fixe fermé ou en jalonnement pour protéger et montrer, par contre, être moins en profondeur et montrer leur présence justement pour faire redescendre la tension. Il n'y en a pas eu beaucoup jusque-là.
Mais ça comporte quand même, ça n'est pas dénué de risque, dans le sens où on voit quand même les manifestants qui sont aux abords directs du lieu où c'est en train de s'échauffer. Il y a toujours, évidemment, pour les forces de l'ordre, le risque de victimes collatérales de ces affrontements.
La difficulté, absolument, je dirais même plus, la sensibilité. On voit qu'on a une expression contestataire très polymorphe et notamment jeune et féminine. Donc, bien sûr, on a toujours, tout particulièrement pour les forces de maintien de l'ordre, Malik Oussekine en 1986, ce traumatisme qui a marqué les forces mobiles. Donc quand on a un public qui est jeune, il faut être très prudent dans l'interpellation, dans les charges, discriminer les publics. C'est très délicat, très difficile, dans une foule très dense, de monter au contact et d'interpeller les bonnes personnes en faisant au maximum pour qu'il n'y ait pas de blessés ni de dommages collatéraux. C'est pour ça qu'il importe, et c'est fait maintenant, une façon prioritaire de faire intervenir des unités très professionnelles et spécialisées en matière de l'ordre, que sont les CRS et les gendarmes.
Des forces de l'ordre qui sont copieusement sifflées, là. On entend beaucoup les bruits d'ambiance autour. Et moi, j'ai un peu le sentiment d'une forme d'encerclement, finalement, hein, de ces gendarmes mobiles et de ces braves qui sont au milieu de cette esplanade. Judith ?
Alors, encerclement,
Enfin, on voit
je
qu'il y a
ne
beaucoup
sais pas,
de monde
mais en
autour.
Tout cas, ce que vous soulignez est tout à fait exact. On voit que l'expression de la foule vient plutôt en soutien des casseurs et des gens qui jettent des projectiles et qui insultent les forces de l'ordre, quand des forces de l'ordre. Ça, c'est évident. Ça correspond d'ailleurs au slogan politique qu'on a entendu, au drapeau avec Che Guevara, au foulard palestinien. Enfin, on connaît cette population qui s'illustre dans les cortèges d'ultra-gauche et qui est très anti-police.
Et là, on voit quand même, alors il y a quand même là un certain nombre d'interpellations qui ont eu lieu, Pascal Bitopani.
Il y a des interpellations, il y a des montées, donc des modules d'intervention, parce qu'on voit que sur cette zone, ce qu'on voit à l'antenne, on est sur une zone où on a des radicaux qui viennent à l'affrontement. Donc voilà, on va faire des bons offensifs, les individus vont être interpellés, les unités qui étaient en profondeur vont se rapprocher de la manifestation, en espérant que ces interpellations et ces extractions vont faire redescendre la tension sur ce point, mais ça devrait être le cas.
Mais là, on a vu quand même un monsieur qui se faisait emporter par les forces de l'ordre, qui n'était, qui correspondait pas, en tout cas physiquement, au profil type qu'on a pu décrire du semeur de troubles, en tout cas du Black voilà. Bloc et
ça
de son attirail.
Ça peut être quelqu'un qui a fait des gestes sur les forces de l'ordre, ou qui a commis d'autres faits qu'on n'a pas vus et qui est interpellé.
Il y a une radicalisation d'opportunisme aussi qui peut se mettre en place avec une forme d'émulation dans ces,
oui,
dans ces moments-là.
Ça peut se propager. On peut avoir des gens qui sont des manifestants qui peuvent se ranger du côté des radicaux. Ça se faisait plus quand on avait un maintien de l'ordre assez fort, assez
violent. Ça s'est vu à l'époque des Gilets jaunes notamment.
On constate qu'on l'a un peu moins.
Oui. Bon, c'est quand même une image qui tranche nettement avec ce qu'on a pu apercevoir tout à l'heure. On en est presque à du corps à corps là dans certains cas de figure. C'est un peu plus impressionnant évidemment visuellement, Judith Weintraub.
Oui, c'est assez.
On sent tout de suite que les choses sont un petit peu moins maîtrisées là.
C'est-à-dire que je pense qu'on n'a absolument pas les éléments pour prédire comment les choses vont évoluer. Il faut être extrêmement prudent. On ne sait pas du tout si ça va se calmer ou au contraire si ça va. Si ça va s'enflammer, si ça va continuer. On demandait tout à l'heure à vos envoyés spéciaux s'il y avait eu des interpellations. Elle n'en avait pas vu de là où elle était. Si on ne retire pas les black box, les radicaux les plus expérimentés du cortège, ils savent battre en retrait, puis ensuite lancer une nouvelle offensive dans la même manifestation. Ça se voit extrêmement souvent.
Vincent Fahandège, je ne sais pas si ces images se déroulent sous vos yeux, mais je vous laisse évidemment prendre la main pour commenter le moment où ça a dégénéré finalement et à quel endroit se trouve-t-on précisément en ce moment.
Alors, nous sommes juste après Port-Royal, exactement. Alors, ce qui s'est passé exactement, on ne l'a pas réellement vu, on est un petit peu plus loin. Néanmoins, effectivement, on entend déjà beaucoup de casse, j'allais dire, beaucoup de pétards. On voit également quelques petits mouvements de foule. Et on voit surtout ces mortiers d'artifice qui sont envoyés assez régulièrement. Ça peut être très dangereux d'ailleurs pour la foule et pour les gendarmes également. Ce que je voulais dire également, il y a peut-être effectivement une poignée d'éléments radicaux de cette manifestation qui vont venir en soutien des casseurs. Néanmoins, la quasi-totalité des manifestants attendent patiemment de pouvoir continuer leur cortège, leur manifestation, parce que c'est leur manifestation. La plupart sont désabusés hein, quand ils voient les poubelles brûler, quand ils voient les tensions avec les forces de l'ordre, et ils attendent effectivement que le cortège reprenne sa marche. Ils attendent que ces tensions se calment, tout simplement, parce que c'est vrai que lorsque ça se passe de cette manière, c'est un petit peu les casseurs qui prennent en otage en quelque sorte, j'aime pas ce mot encore une fois, mais qui prennent en otage le rythme de la manifestation qui n'est plus dicté du coup par les vrais manifestants et par les syndicats.
Vincent, alors là on voit carrément des jets de projectiles, on va se quitter d'ici une minute et demie sur ces images parce que c'est Laurence Ferrari qui prendra la main pour le début de Punchline, qui continuera bien sûr de commenter avec ses invités ces images. Juste un dernier mot en guise de conclusion, Pascal Vitopanelli. Est-ce qu'ils vous paraissent un tout petit peu débordés là où ils sont vraiment dans une configuration habituelle?
Débordés, non. On est dans l'opérationnel où on met des unités en préparation d'interpellation. Et comme on le disait en début d'émission, il ne peut pas y avoir, quand il y a autant de monde, la possibilité que toute la manifestation soit dans le calme. On a forcément des éléments radicaux qui ont pénétré la manifestation et qui vont, sur certains points, affronter les forces de l'ordre.
Merci beaucoup. Dans un petit instant, c'est donc Laurence Ferrari que vous retrouverez, tandis qu'on se quitte sur ces images, le cortège parisien qui s'était lancé à 14h des Invalides, de la place des Invalides, de l'Esplanade des Invalides précisément, pour rejoindre son point d'arrivée, a priori, si tout se passe bien, d'ici une bonne heure, une heure et demie. Maintenant, ce sera à la place d'Italie, un cortège relativement classique, avec ça et là, vous l'avez vu, des heures, et donc ces manifestants qui, eux, continuent leur parcours et qui attendent aussi l'issue de ce qui va se passer du côté de l'Assemblée nationale, puisque vous le savez, aujourd'hui, la commission mixte paritaire est réunie. L'article 7, d'ores et déjà, a été. On s'est mis d'accord sur cet article 7, ce qui fait qu'on progresse, comme nous le disait notre reporter à l'Assemblée, vers l'article 9, semble-t-il, pour une fin de commission qui est prévue aux alentours de 19-20 heures pour les prévisions les plus optimistes, semble-t-il. Et puis demain, nous verrons aussi quelle sera l'issue du vote, s'il y a un vote solennel, si l'exécutif, la majorité prend le risque d'aller vers un vote solennel ou si elle estime que des votes ou des voix manqueront à l'appel. Et à ce moment-là, elle enclenchera le 49-3 avec des conséquences qu'on ne connaît pas tout à fait pour l'instant. On va se quitter sur ces images dans une poignée de secondes. Le temps que Laurence se mette en place avec ses invités. Voilà, vous voyez ces images du côté du boulevard du Montparnasse. On a quand même progressé. Là, on est plutôt du côté du boulevard du Port-Royal. Et on en est, dirons-nous, à la moitié du parcours environ, avec des manifestants qui sont toujours déterminés, toujours un front syndical alors qu'il est uni. Nous verrons si l'issue du vote demain déterminera une autre attitude de la part de Laurent Berger, notamment, on en a beaucoup parlé cet après-midi, la CFDT qui risque finalement de laisser la CGT faire cavalier seul si jamais le vote légitime, tel que l'a dit Laurent Berger, le vote solennel de l'hémicycle, venait à entériner les choses. Nous verrons bien. On se quitte sur ces images avant de laisser Laurence Ferrari prendre la main dans un instant.
Spring? Is that you? Warmer temps mean new Allbirds styles. Meet the Superlight Collection, the lightest ever shoes from Allbirds, now in fresh colors. These must-have travel shoes have a lighter-than-air feel and barely-there fit that made them the most packable shoes ever. That means more comfort and less baggage. Try the Superlight Tree Runner with a cushy foam midsole and breathable eucalyptus fiber upper. Plus, they're comfy right out of the box. So what can you do in a super light shoe? What can't you do is the better question. And because they're super packable, the real question is, where are you taking them? Experience how Allbirds redefines comfort. Visit Allbirds.com and use code SUPER24 for a free pair of socks with a purchase of $48 or more. That's Allbirds.com. Code SUPER24.